Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.
Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui, dans Patrimoine et culture du judaïsme, un historien spécialiste du renseignement pour nous parler du dernier numéro, il faut le dire, assez exceptionnel, du magazine Historia dédié au Mossad, l'un des services secrets parmi les plus connus au monde et surtout celui qui suscite le plus de fantasmes. Yvonik de Noël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous? Très bien. Alors on va vous présenter un petit peu pour nos auditeurs. Vous êtes historien, éditeur, vos thèmes de prédilection sont les services secrets. Vous êtes notamment l'auteur du livre noir de la CIA, que nos auditeurs connaissent probablement. Vous êtes également intéressé aux espions du Vatican ou encore à ceux de l'ex-Union soviétique. Précisons que certains de vos ouvrages à succès sont d'ores et déjà disponibles en format poche. Mais aujourd'hui, c'est surtout votre connaissance des réseaux de renseignement du Moyen-Orient et plus précisément autour du Mossad qui va nous intéresser. Vous êtes en effet un des rares spécialistes français du sujet et je remercie Eric Pinkas, le rédacteur en chef du magazine Historia, de nous avoir mis en contact pour réaliser cet échange. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ma première question sera la suivante. Le Mossad, c'est le nom qu'on donne maladroitement, on le découvre dans le magazine de ce mois-ci, à une pluralité de services secrets, de services de sécurité en Israël. Pourriez-vous commencer par nous décrire succinctement comment cela s'organise dans les faits et ces services secrets, quelles sont leurs attributions respectives?
Alors effectivement, on a tendance parfois à confondre les différentes missions, les différentes attributions. Il y a trois services de renseignement distincts, avec direction distincte à chaque fois. Il y a d'abord un service de sécurité et de renseignement militaire, la MAN. Il y a ensuite un service de renseignement intérieur, le Shin Bet, qui a dans ses attributions notamment les territoires et la bande de Gaza, et donc qui avait dans ses attributions la surveillance du Hamas. Et puis il y a le Mossad, qui est en charge du renseignement extérieur. Donc on reproduit en quelque sorte la structure qu'on a dans beaucoup de pays, comme la France ou les États-Unis, avec des attributions distinctes.
Et le Mossad, lui, a proprement parlé, puisque c'est surtout sur ce service spécifique, le plus connu qu'on va discuter aujourd'hui, vraisemblablement, on apprend qu'il n'est pas né avec la création d'Israël en 1948. Il serait le résultat d'une longue réflexion et d'une histoire complexe. Est-ce que vous pourriez revenir en quelques étapes pour nous décrire la construction de ce service hautement spécialisé?
Alors effectivement, avant la naissance d'Israël, il y a donc une milice juive, la Haganah, qui est chargée notamment de protéger les juifs et d'aider à leur immigration en Israël. Et au sein de cette Haganah, il y a un service de renseignement qui préfigure le Mossad, qui s'appelle le Shai. Et c'est d'ailleurs avec un certain nombre de membres du Shai que le Mossad va être constitué au départ. Il y en a d'autres qui vont intégrer le service de sécurité intérieure, le Shin Bet. Et bien évidemment, tout ça va se structurer et se professionnaliser petit à petit, puisqu'au départ, on était sur un fonctionnement extrêmement artisanal avec quelques dizaines de personnes.
Alors vous avez signé un certain nombre d'articles dans la revue et je pensais connaître assez bien le sujet, mais je découvrais que l'une de ses premières structurations, alors c'était vraiment les prémices au moment de la Première Guerre mondiale, c'était en accord avec les troupes britanniques des manigances contre l'Empire ottoman et ce serait la préfiguration de cet ensemble de services de renseignement israéliens.
Alors oui, en réalité, il y avait un jeu multiple, c'est-à-dire que ces fameuses milices ont pu un temps, et notamment pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un tout petit groupe qui s'appelait le Nili, qui effectivement a collaboré avec les Britanniques contre l'Empire ottoman. Après, dans l'entre-deux-guerres, on arrive à une situation un petit peu différente, où justement la Haganah va lutter un petit peu tous azimuts, et y compris contre le mandat, le protectorat britannique. Les choses sont un peu plus compliquées que ça. En réalité, les alliances sont mouvantes en fonction des objectifs poursuivis.
Oui, évidemment. Donc, il se structure, mais toujours à la faveur d'un futur État d'Israël qui sort du vieux Yishuv pour constituer progressivement un État indépendant. Et ce jeu d'alliance permet de créer in fine, en 1948, le Mossad tel qu'on le connaît, ou 1949, parce qu'il aura fallu peut-être quelques mois pour se coordonner après la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, le Mossad, alors on trouve des chiffres mouvants entre 6 000, 7 000, vous diriez, personnes qui contribuent,
oui,
à ce service de renseignement.
6 000 est un chiffre qu'on peut tenir pour fiable, c'est-à-dire on n'est pas en dessous de 6 000, et ça représente d'ailleurs une forte croissance. Hein. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le sujet au début des années 2000, on parlait plutôt de 3 000 personnes, donc ce serait un doublement. Alors même si le service est relativement petit à l'échelle des grandes puissances de renseignement, ça représente quand même un effort budgétaire important, mais il y a eu souvent des augmentations budgétaires significatives. Donc 6 000 personnes, ça reste, c'est à la fois petit et en même temps ça permet de faire pas mal de choses. Donc 6 000 personnes, on va dire que c'est une puissance moyenne du renseignement.
Il faut quand même relativiser, parce que eu égard à la taille de la population, qui n'atteint pas les 10 millions d'habitants, 6 000 individus, ça paraît quand même énorme en termes d'effectifs et de moyens. Comment vous expliquez ce doublement, justement ?
Tout simplement, l'ensemble des menaces qui pèsent sur l'État d'Israël. Le Mossad fait partie, à côté de Tzahal et des autres services de renseignement, des piliers de la sécurité d'Israël, à tel point qu'effectivement, la moindre défaillance peut avoir des conséquences extrêmement graves. Donc effectivement, il y a une espèce de consensus dans la société israélienne sur le fait qu'il faut toujours donner plus de moyens au Mossad. Il y a également une réputation de très grand savoir-faire qui a été cultivée justement avec des fuites savamment orchestrées, que ce soit des anciens qui racontent des missions, que ce soit des opérations qui fuitent parfois dans la presse étrangère, c'est-à-dire qu'on donne des infos pour qu'elles puissent ensuite être reprises en Israël. Rappelons que les journalistes israéliens n'ont pas le droit eux-mêmes de sortir des opérations réalisées par le Mossad, il y a une censure, mais parfois on joue un peu avec la frontière en donnant des infos à des journalistes étrangers pour qu'ils les sortent dans un journal anglo-saxon ou français pour ensuite pouvoir les reprendre dans la presse israélienne.
Je crois que justement c'est Yisrael Harel, un des premiers grands chefs du Mossad, qui avait expliqué que la médiatisation des opérations, même mineures, contribuait à la réputation et que ça permettait justement d'effrayer l'ennemi. Et il y a une phrase, alors attendez, je vais essayer de la retrouver dans le magazine, que j'ai trouvé très intéressante. Il est écrit: la principale victoire du Mossad ne tient-elle pas justement dans ses absences, car même quand les services israéliens n'y sont pour rien dans un événement géopolitique d'ampleur, les ennemis de l'État juif, ses alliés et des pans entiers de l'opinion publique lui en attribuent la paternité dans un même élan paranoïaque ou admiratif. Et on cite dans l'article, l'écrivain Robert Mallet disait: le pouvoir qu'on vous prête, finalement, on vous en donne. Donc c'est ça, c'est une surmédiatisation qui force l'admiration, alors qu'en réalité, les plus belles opérations ne sont peut-être pas communiquées. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de l'une ou l'autre de ces opérations secrètes qui ont fuité, alors qu'en réalité, Israël aurait aimé les garder plus secrètes?
Alors, en réalité, celle qu'on veut vraiment garder secrète, le reste. Parce que il y a à chaque fois un nombre très limité de personnes réellement impliquées qui le savent, qui peuvent en connaître, comme on dit chez les militaires. Donc j'ai pu, dans mes discussions avec des anciens du Mossad, m'apercevoir qu'il y avait des choses qui effectivement ne sont jamais sorties et sur lesquelles on n'a pas de base factuelle suffisante pour écrire. Donc ensuite, beaucoup de choses sortent, et vous avez raison de le souligner, sortent à la fois dans le but d'impressionner et de dissuader les ennemis d'Israël, mais aussi à usage interne. C'est-à-dire qu'il s'agit de rassurer la population. On l'a vu récemment avec un certain nombre de frappes toutes récentes, leur très forte médiatisation et l'annonce qu'il y allait avoir en quelque sorte une nouvelle opération tonnerre de Dieu pour éliminer les responsables du Hamas. Bah, ça vise avant tout à rassurer les Israéliens qui sont encore sous le choc des attaques du mois d'octobre dernier.
Donc, alors justement, cette opération tonnerre de Dieu n'est pas sans rappeler une opération lancée par Golda Meir au début des années 70, Septembre Noir, hein, pour venger la prise d'otages très meurtrière des JO de Munich, hein, ce qui a marqué l'opinion publique mondiale. On se souvient, il y avait 11 athlètes qui avaient été assassinés, mais ça avait été retransmis dans les médias et tout le monde, de manière haletante, avait pu suivre les événements jusqu'au fiasco mené par l'armée allemande pour essayer de libérer ces athlètes israéliens. Et dans les, on va dire, 8-10 années qui ont suivi, Israël s'est lancé partout en Europe et au Moyen-Orient dans la traque des commanditaires et de ceux qui avaient pris part à cela, avec malheureusement aussi certains aléas et parfois des erreurs d'appréciation.
Oui, alors effectivement, ça fait partie des grandes opérations dont on parle dans ce dossier. On a voulu balayer à la fois les grandes réussites de l'histoire du Mossad et également ses principaux échecs. Et cette opération, justement, cumule les deux. Donc effectivement, après le massacre des JO de 1972, il y a eu une volonté d'orienter très largement les ressources du Mossad pour repérer, traquer et éliminer les membres du commando et les responsables. Ça s'est étalé sur une dizaine d'années. Il y a eu, alors là, justement, c'est un petit peu flou, mais on va dire qu'il y a eu entre 12 et 15 éliminations qui sont à peu près identifiées. Donc on ne peut pas dire, à mon sens, que l'ensemble des membres du commando aient été éliminés, ou en tout cas, on garde un certain flou là-dessus. Donc c'est globalement une opération extrêmement réussie, mais qui débouche aussi sur le fiasco de Lillehammer, où on a éliminé un peu trop vite, sur la base d'une identification incorrecte, un Palestinien qui n'avait rien à voir avec ce commando.
Il me semble que c'était un garçon de café qui avait été confondu avec le commanditaire principal, Salamé.
Exactement. C'est ça, hein. La grande affaire de cette opération, Tonnerre de Dieu, c'était d'identifier et d'éliminer Ali Hassan Salamé, baptisé le Prince Rouge, qui était qui était effectivement le cerveau de cette opération, qui était extrêmement discret, qui avait des relations aussi bien avec le KGB qu'avec la CIA, donc qui était une véritable anguille, très très difficile à attraper, et on a cru l'identifier. Mais les vérifications ont été mal faites et de fait ça s'est transformé en désastre, puisqu'en plus une grande partie de l'équipe du Mossad a été mise sous les verrous. Donc ça a été un scandale international. Il a fallu des années pour réussir à les faire libérer. Il a fallu indemniser la famille. Enfin ça fait partie justement de ces grands échecs, mais au sein d'une opération qui globalement, elle, a été réussie.
Alors vous disiez justement que Salamé avait des liens, des accointances avec différents services de renseignement, probablement la CIA, le KGB. Quels sont justement les rapports de l'État hébreu et plus précisément du Mossad avec ces différents services de renseignement étrangers? Parce que là aussi, on découvre dans les différents articles qu'il y a eu des revirements, hein, des basculements assez importants. Aussi bien avec la France, jusqu'en 1967, on peut dire que la France était plutôt un soutien du Mossad et a même aidé Israël à se doter de l'arme nucléaire. Il y a eu une période lors de laquelle l'Iran, qui aujourd'hui peut être considéré comme l'ennemi juré de l'État hébreu, transmettait des informations cruciales pour la sécurité d'Israël. Comment ça se déroule tout cela ?
Alors effectivement, une des choses que montre ce dossier, c'est que les services secrets français ont été les premiers historiquement à soutenir la création de l'État d'Israël. J'ai retrouvé il y a quelques années un ancien des services secrets français qui avait été envoyé en 48 pour justement aider cette naissance d'Israël. Et donc il y a eu également une coopération très forte sur la fourniture de matériel militaire, d'assistance diverses et variées. Donc on peut dire que dans les années 50, les services français sont les meilleurs alliés du Mossad. Bon. Ensuite, ça va aller en diminuant, d'abord parce qu'il y a une alliance encore plus forte qui prend le relais et qui va être jusqu'à ce jour fondamentale, c'est l'alliance avec les services secrets américains. Israël est quand même très dépendant de cette alliance avec la puissance américaine. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir effectivement un net refroidissement sous le général de Gaulle en 67 pour plusieurs raisons. D'abord, la guerre entre Israël et ses voisins, dont le général de Gaulle estime que Israël a devancé l'agression. Israël aurait dû répondre à l'agression, mais pas la devancer. Ensuite, il y a l'affaire des vedettes de Cherbourg, qui étaient du matériel, donc des vedettes qui devaient être livrées à Israël, mais dont l'exportation venait d'être interdite. Et puis, le Mossad a monté une opération pour récupérer à la hussarde ces vedettes, ce qui a fortement déplu. Donc voilà, il y a eu un refroidissement très très net, au point d'ailleurs que la centrale du Mossad pour l'Europe, qui était basée à Paris, a dû déménager à Bruxelles.
Oui. Ensuite. Et puis, il y a, je crois, alors, bon, on est sur la radio juive de Marseille, donc il y a un événement qui peut-être va intéresser les auditeurs locaux, parce qu'une affaire au début des années 70 concerne directement la région. Cette histoire des deux cuves nucléaires destinées à l'Irak qui ont été détruites à la Seyne-sur-Mer alors qu'il y avait de l'uranium enrichi à destination donc d'un allié de la France. Hein, on sait que la politique arabe opère un revirement donc dans les années 70 à partir de la fin du mandat du général de Gaulle, et puis sous Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, disons que les relations sont de plus en plus proches avec certains États du Moyen-Orient. Est-ce que vous voulez nous en toucher un mot, justement, de cette destruction par des agents secrets, vraisemblablement du Mossad, de ces cuves destinées à l'Irak?
Alors effectivement, sous Giscard, il y a une volonté de rapprochement et une répartition des tâches d'ailleurs entre le président Giscard et son premier ministre Jacques Chirac. Giscard se charge de traiter le Shah d'Iran, dont il est très proche, et Chirac est chargé du rapprochement avec Saddam Hussein. Donc on cajole les deux puissances de la région avec une idée très simple en tête, qui est de dire on est en pleine période de choc pétrolier, donc les prix du pétrole s'envolent pour la France. La question de l'approvisionnement est extrêmement importante. Et puis, ce sont également deux États qui sont en train de devenir très très riches avec un fort pouvoir d'achat, et donc qui sont capables d'acheter des avions à Dassault, des équipements pour l'ensemble de leur armée, qui peuvent acheter également des infrastructures. Donc, l'idée, c'est de dire à la fois on sécurise l'approvisionnement en pétrole et on se fait des bons clients. Et donc, dans ce cadre-là, un accord passé avec l'Irak de Saddam Hussein pour fournir une centrale nucléaire, a priori à usage civil.
Oui, bon. A priori, donc, mais vraisemblablement, les informations qui avaient filtré suggéraient à Israël qu'une menace imminente était à prévoir, et c'est la raison pour laquelle plusieurs opérations ont été menées, parce que par la suite, Israël ne se contentera pas donc de la destruction dans le sud de la France, ce qui probablement a refroidi les relations d'autant plus hein, entre les deux pays, entre la France et l'État hébreu, mais ensuite il y a eu la destruction, me semble-t-il, du réacteur aux Irak, directement en Irak.
En juin 81, oui. Et c'est une destruction qui était d'ailleurs programmée le 10 mai 81, et Shimon Peres a fait remarquer que c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça le jour d'une élection présidentielle française, et que ça allait mettre dans l'embarras son ami François Mitterrand. Donc effectivement, il y a eu en fait toute une rafale d'opérations. Il y a eu des scientifiques qui travaillaient sur ce programme nucléaire irakien, qui ont été éliminés, dont certains à Paris. Il y a eu effectivement un commando qui, à la Seyne-sur-Mer, a déjoué l'attention des gardes qui, pour ensuite s'introduire, placer une bombe et s'enfuir. Et donc on a fait exploser le matériel en préparation, ce qui a permis de gagner simplement quelques mois. Et puis, voyant que cette centrale se construisait envers et contre tout, il a été effectivement décidé de la bombarder avant qu'elle devienne opérationnelle. Ça a été fait un dimanche pour faire le moins de victimes possible, mais il se trouvait qu'il y avait un technicien français sur site qui est décédé ce jour-là. Donc ça a été effectivement une des grandes affaires du Mossad à cette époque-là, et ça a créé effectivement des tensions à nouveau entre les services français et israéliens.
Alors, Aujourd'hui, on peut dire que ce service secret est devenu mondialement connu, notamment par un certain nombre de romans d'espionnage qui font la part belle donc au service du Mossad, mais également un certain nombre de films au cours des 20 dernières années. On pensera notamment en 2005 à celui de Steven Spielberg, justement, qui revient sur Munich, hein, donc les opérations dont il a été question à la suite des attentats des JO de Munich. Mais on a également, plus récemment, l'excellente mini-série française The Spy, avec Sacha Baron Cohen, qui est basée sur la vie du célèbre espion israélien Eli Cohen. Et je rappelle à cet égard aux auditeurs que nous avions interviewé il y a quelques mois Valérie Pérez, au moment de la sortie de sa monographie sur le thème, et donc qu'on peut retrouver également le podcast sur la chaîne Patrimoine et Culture du Judaïsme. Alors on va terminer simplement par quelques livres. On connaît celui sorti il y a environ 3-4 ans de Ronen Bergman, Lève-toi et tue, hein, Mossad. Mais vous aussi, en langue française, vous publiez pas mal et vous pourriez peut-être nous toucher un mot de votre dernier-né qui devrait connaître une réédition prochaine.
Alors, effectivement, je vous remercie de mentionner, j'avais publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelle Les guerres secrètes du Mossad, qui s'attachait à la fois à mettre en lumière certains aspects moins connus du sujet qui avait déjà été traité par ailleurs, et à illustrer notamment les relations du Mossad avec les services de renseignement occidentaux et français en particulier. J'aimerais aussi mentionner les mémoires d'un grand ancien du Mossad, Rafi Eitan,
Bien sûr.
Intitulé J'ai capturé Eichmann. Alors, les exploits de Rafi Eitan ne se limite pas à la capture désormais légendaire d'Eichmann, mais c'est vrai que c'est un des grands moments de bravoure de ce livre, et ça permet aussi d'avoir des détails inédits qu'on ne connaissait pas sur cette opération. Mais l'intérêt de Rafi Eitan, c'est que vraiment, il a participé à la naissance des services secrets d'Israël, aussi bien d'ailleurs le Shin Bet que le Mossad, et il est resté actif jusqu'aux années 80. Donc ses mémoires qui comprennent beaucoup de détails très précis sur l'ambiance, la façon de travailler des débuts sont assez précieuses pour comprendre comment effectivement ces services se sont structurés.
Écoutez, ça paraît vraiment passionnant et on s'impatiente de lire cette revue, j'imagine, corrigée et augmentée. Peut-être qu'on pourra vous recevoir dans une prochaine émission, justement au moment de la reparution de ce livre. Elle est prévue pour quand?
Pour le mois d'avril, effectivement, je
D'accord.
viens de rendre mon chapitre justement sur les événements de ces derniers mois en essayant d'apporter des éclairages nouveaux.
Eh bien, écoutez, on vous remercie, Yvonique de Noël. On vous dit alors à très bientôt, si vous le voulez bien.
Merci.
Et puis, on rappelle donc aux éditeurs de Patrimoine et Culture du Judaïsme que le podcast de cette émission pourra, être retrouvé sur la chaîne Patrimoine et Culture du Judaïsme, sur YouTube et également sur, le site de Radio JM. Voilà, on vous remercie. À très bientôt. Au
Merci à
revoir.
vous. Au revoir.
Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.